France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Des militants qui occupent un centre commercial pour en empêcher l'accès un samedi à Paris. D'autres qui bloquent plusieurs jours durant une place située au cœur de la capitale, histoire de provoquer le maximum de désagréments. Le groupe Extinction Rébellion est passé à l'action la semaine dernière en France et dans bien d'autres pays à l'occasion d'une quinzaine de mobilisations internationales pour l'avenir de la planète. À Londres, où le groupe a vu le jour il y a un an seulement, les actions ont été plus radicales puisque les militants ont détourné des bus et même tenté de perturber le trafic aérien avec des drones. Il y a d'ailleurs eu des arrestations, comme cela a été le cas dans plusieurs capitales européennes. Alors ce soir, au téléphone sonne, on va s'intéresser à ce mouvement. On va tenter de comprendre ses motivations, ses modes d'action et de décision. On va essayer de voir également d'où viennent ces militants, ce qui les motive. On élargira la réflexion à d'autres groupes, comme ces décrocheurs de portraits présidentiels. Certains ont été condamnés cette semaine à Paris, contrairement à ce qui s'était passé à Lyon le mois dernier. On se demandera si ce genre d'action a une chance de faire bouger les choses, si on peut vraiment parler de désobéissance civile, et on s'arrêtera au passage sur ce concept en faisant un petit peu d'histoire. Avec nous pour réfléchir à tout cela ce soir, le sociologue Manuel Cervera-Marzal. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'université d'Aix-Marseille, auteur d'un essai intitulé « Les nouveaux désobéissants, citoyens ou hors-la-loi », publié aux éditions du Bordelot. Une militante d'Extinction Rébellion, Carole, bonsoir.
Bonsoir.
Je précise que si je vous appelle Carole, c'est parce que vous ne souhaitez pas décliner votre identité plus précisément. Et puis un militant qui a souvent désobéi et qui a fait de la prison pour cela, mais qui s'est aussi engagé dans le mouvement syndical et le mouvement politique. Il est sur le plateau du Larzac, il est au bout du fil. Bonsoir José Bové.
Oh.
Bonsoir, a priori, vous êtes là. Je précise que vous avez publié il y a des années déjà pour la désobéissance civique aux éditions La Découverte. Pour interpeller nos invités, pour les interroger, ou si vous souhaitez simplement faire part de vos réflexions, n'hésitez pas à appeler le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, un premier appel. Patrice est dans la Meuse. Il est au bout du fil. Bonsoir, Patrice.
Bonsoir à tous.
On vous écoute. Bienvenue.
Je pense que la désobéissance citoyenne est certainement un dernier recours dans une démocratie représentative qui est trop souvent phagocytée par des lobbies et des intérêts particuliers et où la vie de la population est complètement négligée. Puisque vous l'avez dit, je suis en Meuse, je suis un militant de base, si vous voulez, non violent, mais je prends l'exemple de ce qui se passe près de chez moi. J'habite dans le canton de Bure, que vous connaissez, je ne vais pas m'étendre sur l'aspect technique.
Là où il y a un projet d'enfouissement des déchets nucléaires, on va peut-être préciser.
Voilà, alors, pour être clair, ça fait 25 ans que l'ANDRA a son projet qu'on appelle CIGEO, qui phagocyte avec des millions notre démocratie, en payant les collectivités, et où un minimum de déontologie qui incombe aux élus n'est absolument pas respecté. Vous avez au fronton des mairies une devise qui est liberté, égalité, fraternité. Mais il n'y a pas d'égalité d'écoute, il n'y a pas de moyens, surtout d'égalité de moyens. Donc s'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'éthique. Et où il n'y a pas d'éthique, il n'y a qu'une démocratie lacunaire et dévoyée. Et d'ailleurs, je signale que la Ligue des droits de l'homme a dénoncé la répression qui s'abat en ce moment en Meuse. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 2 ans au Bois-le-Jus, où vous avez par exemple 25 militants qui ont été délogés par 5 CRS. Vous avez aussi quelqu'un qui s'est fait arrêter parce que dans sa camionnette, il avait un couteau. Bon, je veux dire, c'est pas un crime d'avoir un couteau. Il avait un câble et tenez-vous bien, il avait une pelle à tarte. Vous vous rendez compte?
Patrice, petite question. Vous êtes un militant, vous-même, vous menez des actions?
Vous savez, alors moi, mon action, c'est de produire des écrits dans certaines quand je le peux, de distribuer des tracts, des journaux. Mais je suis non violent. Mais vous savez, moi, je suis un ancien instit. Hein. J'ai toujours préconisé la non violence parce que je me suis inscrit dans une démocratie qui, à mes yeux, avait une certaine déontologie. Et je reste non-violent, mais je suis vraiment dégoûté de ce que je peux voir actuellement en Meuse, en Haute-Marne, où on paye les élus, alors je dis pas personnellement, mais les collectivités, pour faire aboutir un projet, et ce n'est pas un projet scientifique, c'est un projet scientifique.
Alors,
la démocratie,
Patrice,
est totalement dévoyée.
Merci mille fois pour cette entrée en matière. On va pas débattre ce soir du projet d'enfouissement des déchets de Bure, mais en tout cas, vous posez les questions intéressantes et importantes ce soir. Vous nous avez dit, c'est la désobéissance civil, c'est un dernier recours. Et j'aimerais bien que Manuel Cervera-Marzal réagisse à ce que vous avez dit sur ce point précis.
Oui, c'est vrai que donc toute désobéissance n'est pas de la désobéissance civile. Pour qu'elle soit civile, il faut en théorie qu'elle respecte un certain nombre de critères. Bon, d'abord évidemment d'être non-violente, c'est-à-dire de pas injurier et en tout cas de pas non plus agresser les adversaires. Il faut aussi qu'elle se fasse dans l'intérêt général. Si je désobéis pour planquer mon argent en Suisse ou jeter des déchets dans la mer sans être pris, bon, c'est évidemment c'est pas de l'intérêt général. Donc il y a ces critères-là, mais il y a aussi un critère qui a souvent été avancé par les fondateurs, les précurseurs de la désobéissance civile comme Gandhi et Martin Luther King, c'était on ne désobéit de façon légitime que si on ne désobéit en dernier recours. En fait, il faut d'abord essayer les méthodes traditionnelles. Il faut d'abord essayer de voter, il faut d'abord essayer de manifester, de faire des pétitions,
et puis
épuiser toutes les voies démocratiques. Et si on a fait la preuve que ces voies ne fonctionnent pas, alors on peut, en ultime recours, désobéir. Mais cette condition, il me semble qu'aujourd'hui, elle est en train de sauter, en fait, pour une raison qui est simple et que tout le monde connaît et a sous les yeux, c'est l'urgence climatique. C'est l'urgence climatique qui fait que on n'a plus le temps, finalement, d'attendre. On sait que la justice est très longue, on sait que s'il faut qu'on attende qu'enfin un gouvernement réellement écologiste arrive au pouvoir, voilà, les océans auront déjà monté et finalement plus personne sera là pour pouvoir désobéir ni faire quoi que ce soit d'autre.
Carole d'Extinction Rébellion, vous partagez ce point de vue ?
Oui, entièrement. Et d'ailleurs, personnellement, c'est vrai que je suis arrivée chez Extinction Rébellion au mois de juin. Et par ailleurs, avant, j'ai été syndiquée pendant des années, j'ai manifesté à de nombreuses reprises, j'ai voté pour des partis contestataires, et en fait j'ai eu l'impression que finalement cette urgence climatique n'était absolument pas prise en compte. On entendait les scientifiques, le GIEC, qui très régulièrement, en ce moment c'est presque quotidiennement sur les ondes, qui tiraient des sonnettes d'alarme, des nouvelles que je trouve même assez terrifiantes. Et du coup, c'est vrai que à la lecture des revendications d'Extinction Rébellion et des principes, je me suis dit, mais c'est ça que j'attendais. Il faut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire effectivement, il faut se heurter à la loi, étant donné que les moyens de contestation traditionnels et légaux ne servent pas grand-chose. Alors, ça n'avance pas.
On va revenir sur les objectifs d'Extinction Rébellion. Je voudrais qu'on prenne José Bové au téléphone. José Bové, ce concept de désobéissance civile que vous avez rebaptisé à une époque désobéissance civique, est-ce que vous pensez qu'effectivement, aujourd'hui, l'urgence climatique impose de passer à l'action directement sans épuiser les voies démocratiques ?
Alors écoutez, j'ai l'impression d'abord que beaucoup de voies démocratiques ont déjà été utilisées parce que des interpellations ont été nombreuses, les déclarations des scientifiques du GIEC ont donné un constat absolument clair, on a eu même des sommets sur le climat mais qui ont donné des objectifs non contraignants. Bref, on a aujourd'hui toute une situation, en gros, on a un paysage qui est clair, où on agit, ou alors le réchauffement climatique va s'emballer. Donc on est dans une situation aujourd'hui où l'intérêt général, comme ça a été dit tout à l'heure très bien, impose l'action. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place toute une stratégie d'action non violente pour contraindre les États, les multinationales, ceux qui polluent, je pense au gaz, au pétrole, au charbon, au nucléaire aussi on peut le rajouter, pour mettre en place une alternative. Et quand on dit qu'on lance cette stratégie, qu'on utilise les outils de la désobéissance civique, eh bien, on a en même temps une alternative, on met en place une alternative. Et je crois que c'est ça qui est fondamental dans la stratégie qui est en train de se développer aujourd'hui à travers la planète, c'est qu'il y a à la fois la découverte de l'efficacité de l'action non violente et de la désobéissance civique, et en même temps la volonté de construire en même temps les alternatives. Et pour que l'efficacité soit forte, eh bien il faut que ces deux pendants existent, et on est dans cette situation aujourd'hui où maintenant les citoyens ont décidé de ne plus coopérer à des pouvoirs qui soient injuste, qui soit destructeur du vivre ensemble, qui soit destructeur des océans, de la biodiversité, etc., et des espèces. Et donc, maintenant, la mobilisation se fait parce que on n'est pas sur des intérêts particuliers, mais bien fondamentalement sur l'intérêt de l'ensemble, je dirais, des êtres vivants, de l'espace et de la possibilité de bien vivre sur la planète.
Merci José Bové. On repart au standard. François nous appelle de Vendôme. Bonsoir François.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Merci. Je m'inscris en faux contre la vision que vient d'exposer M. José Bové, car cette désobéissance dont on parle va bien au-delà de la désobéissance qui pourrait constituer à ne pas exécuter une mission ou une fonction. Il s'agit d'un activisme militant et violent, car occuper des lieux, des villes, des centres-villes, c'est exercer une entrave à la libre circulation des citoyens. Il s'agit donc de voies de fait et de violence de la part d'activistes qui, avec les meilleures raisons du monde, ont tort de s'arroger le droit de se faire justice eux-mêmes, au mépris de l'état de droit et de la démocratie, et au risque d'inciter tout le monde dans notre société à en faire de même. Alors imaginez les conséquences si les groupes les plus extrêmes, pour défendre leurs idées, s'arrogent eux aussi le droit de se faire justice eux-mêmes.
Vous avez été choqué par certaines des actions les plus récentes, François, qui ont pu avoir lieu ?
Oui, je suis choqué par les occupations de lieux qui constituent des voies de fait d'entrave à la circulation du citoyen que je suis et que nous sommes tous, et qui, encore une fois, consiste à se faire justice eux-mêmes. C'est intolérable. Et on ne, c'est pas en détruisant et en risquant de détruire l'état de droit et la démocratie qu'on fera avancer les choses dans notre pays ou ailleurs. L'écologie est une cause trop bonne et trop désirable pour être compromise par ces actions de violence qui sont intolérables et dangereuses. Encore une fois, si des groupes extrêmes, de gauche ou de droite, s'arrogent ce droit de se faire justice, où va-t-on ?
Merci François, merci beaucoup. Carole, vous avez participé à des opérations de blocage avec Extinction Rébellion à Paris récemment, notamment la place du Châtelet, la semaine dernière. Est-ce que vous entendez ce que dit François ?
J'entends parfaitement ce que dit François et je comprends que certaines personnes aient été très gênées par le blocage. C'était un petit peu le but du jeu, c'était, on est là, on va perturber la vie économique pour se faire entendre.
Embêter les citoyens pour faire passer un message comme celui-là.
C'était pas du tout l'objectif d'embêter les citoyens, mais il se trouve que on a compris qu'on les embêtait. Et d'ailleurs, on leur a expliqué sur place. Hein, on a des activistes qui sont là uniquement pour ça. Les peacekeepers qui vont expliquer à tout le monde ce qui se passe, combien de temps ça va durer. On est complètement désolé du dérangement que ça occasionne. Ça, c'est sûr et certain. Mais en fait, je crois que chez Extinction Rébellion, on voit beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le petit dérangement de, effectivement, rester coincé dans les embouteillages. Certains nous ont même accusé de créer de la pollution. C'est vrai, quand on stagne dans les embouteillages, ça peut aussi polluer. Mais c'est un petit dégât collatéral qui n'a absolument rien à voir avec les catastrophes qui arrivent très rapidement dans les quelques années qui viennent. On va les vivre nous, hein, même bon, moi j'ai 57 ans et je sais que il y a toutes les chances que je les vive ces catastrophes. Et là, ce sera pas un petit dérangement, ce sera un très très gros dérangement si on ne fait rien. Si on n'agit pas sur l'urgence climatique et écologique.
Manuel Cervera-Marzal sur le fait d'aller perturber dans la vie quotidienne des autres citoyens.
Oui, c'était très intéressant ce que disait l'auditeur là, parce qu'effectivement on entend hein, ce type de récrimination à l'égard des désobéissants quand ils bloquent un aéroport comme les Hongkongais, les Catalans aujourd'hui ou bien Extinction Rébellion à Londres. Il y a tout ce discours qui consiste à leur dire mais en fait vous nuisez à la liberté d'autrui, vous entraver notre liberté de prendre l'avion. Quand les écologistes bloquent un centre commercial, on leur dit vous entravez notre liberté de consommer. Quand ils bloquent la circulation, vous entravez notre liberté de prendre notre voiture. Donc, ce qu'il y a, c'est que ça pose une question philosophique fondamentale, à savoir qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce que la démocratie. Et en l'occurrence, il me semble que la démocratie, ce n'est pas la liberté illimitée des individus, ce n'est pas une liberté infinie. En démocratie, vous n'avez pas le droit, je sais pas. Enfin, ça choque personne qu'on n'ait pas le droit de fumer dans une maternité. Enfin, ça choque personne que quand il y a un feu rouge, on s'arrête. La démocratie, c'est des limites à la liberté, mais c'est des limites qui ont été décidé collectivement par la population. Or, aujourd'hui, il y a un certain nombre de lois qui sont décidées plutôt effectivement par des lobbies ou même par des représentants politiques qui se sont autonomisés, qui n'en viennent à ne représenter finalement qu'eux-mêmes.
En l'occurrence, des Parisiens qui essayent d'avancer dans les rues, c'est pas une histoire de lobby là. C'est juste que il y a des gens qui vont au boulot et qui peuvent pas avancer. Je voudrais juste qu'on reprenne une seconde, François. Je crois que vous avez quelque chose à ajouter, François.
Oui, pour dire qu'il s'agit pas de dérangement. Il s'agit encore une fois de voies de fait et de violence insupportable. Et il appartient aux activistes forts de leurs bonnes idées, qui sont tout à fait estimables le cas échéant, de convaincre la population. Et c'est la démocratie que de convaincre l'ensemble des citoyens. L'action violente est à exclure et inadmissible.
Merci François. Carole, vous voulez ajouter quelque chose? Après, on demandera l'avis de José Bové.
Alors, bien entendu, François, moi, j'entends complètement aussi ces récriminations. Mais c'est vrai que, ayant participé au blocage de la place du Châtelet, j'ai rencontré énormément de passants, des gens qui venaient et qui s'interrogeaient, qui parfois venaient en râlant, pareil, qui n'étaient pas contents de toute la perturbation de leur vie que ça engendrait. Mais le fait de s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a derrière ce blocage, pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on alerte la population et pourquoi est-ce qu'on veut un changement radical de système, fait qu'en général, la plupart des gens disaient « mais on vous soutient, continuez » et franchement, la majorité des gens avec lesquels j'ai discuté étaient derrière nous. Je suis allée voir les directeurs des cafés, des trois brasseries principales de la place du Châtelet. Il y en a deux qui m'ont dit, nous, aucun souci, c'est calme, c'est sympa, on a des clients. Il y en a un qui a dit, j'ai moins de clients, mais c'est peut-être aussi à cause des travaux. Mais en revanche, votre cause, moi j'ai des enfants, votre cause est juste, je m'inquiète pour eux. Et en fait, il était derrière nous. C'est, je pense, la majorité des gens sont derrière nous.
Alors, comme promis, on va sur le plateau du Larzac. José Bové, petite question, est-ce que tous les moyens sont bons pour faire entendre une cause aussi noble soit-elle ?
Je crois que tout à l'heure, on a essayé de définir qu'il n'y avait pas de désobéissance civile ou civique en dehors d'un cadre très clair qui est la résistance non violente. C'est-à-dire que l'objectif est bien de contraindre les gouvernements ou les entreprises à changer leurs pratiques et en nulle occasion de prendre à partie les personnes qui sont en responsabilité dans ces entreprises en tant que personnes. Donc ça, je crois que c'est la première chose. J'aurais envie de répondre aussi à cet auditeur que heureusement qu'à un moment, les gens se sont mis à agir, parce que sinon, les droits, par exemple, des salariés n'auraient jamais été mis en œuvre. Et on peut dire très clairement que le droit de grève est issu d'actions illégales, de désobéissance économique, puisqu'en bloquant un outil de travail, eh bien, il n'y a aucun produit qui sort. Les salariés, à partir de là, eux, assument la responsabilité et souvent se retrouvent sans salaire. Mais grâce à ces actions qui ont démarré à la fin du 19e siècle, eh bien, aujourd'hui, le droit de grève est reconnu. Alors, je ne dis pas qu'il faille reconnaître le droit à la désobéissance, mais je dis très clairement aujourd'hui que par des actions qui peuvent être illégales mais légitimes, eh bien, on peut faire bouger les législations. Je pense, par exemple, aux OGM qui ont été interdits à la culture grâce à la mobilisation des faucheurs volontaires. Mmh. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a, et je suis très surpris, on n'en entend pas beaucoup parler, les États se réunissent actuellement à Bruxelles, évidemment pour parler du Brexit, mais aussi pour élaborer le budget européen pour les 7 ans à venir. On est dans un budget qui ne permet absolument pas la transition écologique, la transition énergétique pour empêcher le réchauffement climatique. Eh bien là, je dirais qu'on est légitime pour agir, parce que comme le dit le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau, quand tous les canaux de la démocratie sont bouchés, eh bien il ne reste plus aux citoyens qu'agir à visage découvert, en assumant leurs actions, y compris pourquoi pas la prison, pour contraindre les États. Or aujourd'hui, eh bien on est rentré dans ce rapport de force, il va falloir contraindre les États pour lutter contre le réchauffement climatique.
Merci José Bové. On va prendre en ligne une décrocheuse. Bonsoir Anne-Sophie Trujillo-Gauchez.
Bonsoir.
Alors, vous faites partie d'ANV COP21 et vous avez participé à une action qui consistait à décrocher le portrait du président de la République. C'était en Saône-et-Loire, je crois, et vous avez été poursuivi en justice, condamné par le tribunal de Bourg-en-Bresse. Vous passerez d'ailleurs en appel devant la justice à Lyon à la fin du mois. Expliquez-nous en quoi le fait de décrocher le portrait d'Emmanuel Macron peut nous interpeller sur la situation climatique.
Et on s'inscrit totalement dans la continuité de ce que vous venez de discuter là depuis quelques minutes, par un geste symbolique, non violent, fait à visage découvert par un certain nombre de militants. Aujourd'hui, il y a 133 portraits qui ont été décrochés en France et une vingtaine de procès en cours. On souhaite, par cette action symbolique, montrer que le président de la République et son gouvernement sont très très loin de la mise en œuvre d'actions concrètes, radicales et nécessaires pour nous permettre d'arriver à enrayer ce dérèglement climatique. Et du coup, on agit dans la désobéissance civile non violente afin de provoquer dans cet espace public, de provoquer des discussions, des débats et de permettre à la population d'être avertie sur la réalité de ce dérèglement climatique. Et là, on rejoint beaucoup de mouvements qui se battent pour pouvoir faire en sorte, dans les critères de non-violence que M. Cervera a expliqué, de réexpliquer qu'il y a une urgence, le discours n'est pas en phase avec les réalités, il est très très loin, enfin il est très positif alors que la réalité est très négative, et nous on veut symboliquement montrer que le président de la République se trompe de chemin en jouant le président du chef du climat, enfin le champion du climat, et en fait...
En tout cas, si j'entends bien ce que vous nous dites, c'est aussi le fait de provoquer un événement qui va faire qu'on va en parler. Donc l'aspect médiatique de la chose est très important.
Pour suivre la discussion que vous aviez tout à l'heure, une des raisons de cette campagne, elle est arrivée après l'affaire du siècle, après, vous savez, cette pétition,
qui a été signée
par plus de 2 millions de personnes en France. Donc c'est la pétition la plus signée. Et suite à ça, le gouvernement dit on change pas de cap et on continue, on tient les objectifs. C'est faux, vos interlocuteurs l'ont dit tout à l'heure. On est vraiment aujourd'hui dans une urgence où on doit faire quelque chose. Si rien ne se passe, on est vraiment dans des choses qui vont affecter l'avenir de l'humanité entière, de la biodiversité, de la flore, etc. Donc aujourd'hui, nous, on souhaite, comme Extinction Rebellion, qu'il y ait vraiment des discours de vérité qui soient faits, et du coup que...
Quitte à avoir un casier judiciaire?
Ben oui, on n'a plus le choix, enfin, je veux dire, c'est vraiment... On a marché, on a plus le choix, vous savez, on est un peu démunis face à cette dissonance entre les discours et la réalité. Et aujourd'hui, tous les objectifs ne sont pas atteints. La France décroche des objectifs des accords de Paris. Et donc, du coup, nous, symboliquement, on décroche le président pour que arrive on participe à des mouvements généraux, que ce soit avec Extinction Rebellion, avec les jeunes pour le climat, et vous avez parlé de Greta Thunberg. On fait partie de ces mouvements qui essayent d'alerter sur le fait que l'écologie doit devenir vraiment l'élément de décision premier dans toutes les décisions gouvernementales.
Merci beaucoup Anne-Sophie Trujillo-Gauchez d'être intervenue dans cette émission ce soir. Un petit mot Manuel Cervera-Marzal et ensuite on repartira au Standard de France Inter.
Peut-être pour souligner un point, c'est que l'une des forces vraiment de la désobéissance civile, c'est d'arriver à faire beaucoup de bruit avec très peu de monde. En fait, vous avez tout un tas d'exemples d'actions, on va dire celle des portraits d'OGM ou celle d'Extinction Rebellion, mais pour revenir un peu plus en amont, on peut se rappeler du démontage du McDonald's de Millau ou bien du préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde dans les années 90. Ces actions, à chaque fois, elles sont menées par à peine quelques dizaines de désobéissants qui parviennent à faire autant de bruit dans les médias et auprès de l'opinion publique que des dizaines de milliers de manifestants qui défileraient dans la rue pour la même cause. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ont une intelligence stratégique quand même assez poussée, je pense qu'il faut le reconnaître. Ils ont compris qu'on était dans une société du spectacle, une société de l'image, où les médias, et notamment la télé, qui reste la première source d'information des Françaises et des Français, et raffolent en fait d'images spectaculaires et théâtralisées que les désobéissants savent produire.
Carole, et puis après, promis, on va au standard.
Oui, et j'ai même l'impression que cet outil dont on a besoin, les médias, sur chaque action, commence à avoir été bien interprété par le gouvernement, par l'État, et très souvent, ce que j'ai vu en action, c'est que la première chose qui est faite, c'est qu'on éloigne les médias. Et s'il n'y a pas d'image, l'action retombe. Ça a été le cas tout récemment, d'ailleurs, avec le blocage qui a eu lieu
à l'Assemblée nationale.
Les médias ont été écartés en premier. Et après, effectivement, il y a eu, on a tous été délogés, manu militari, mais il y a eu très peu d'images.
Michel est dans le Tarn, il nous appelle à son tour. Bonsoir Michel.
Bonsoir à tout le monde. En fait, moi je parle en tant que, en faisant partie d'une association qui voit bien que la plupart des gens sont absolument inconscients des dégâts du réchauffement climatique. Et qu'il faut donc entraîner la population pour la compréhension et pour l'action d'Extinction Rébellion. Je pense que ça peut évidemment faire quelques piqûres, mais il y a à notre avis et dans notre association, CEPRA 81, SEPRA 81, c'est indiqué une manière très simple qui entraîne la population, c'est de essayer d'utiliser la procédure du RIP, référendum d'initiative partagée, pour soumettre vraiment un plan sérieux de lutte contre le réchauffement climatique qui s'imposera à tous les gouvernements, quels qu'ils soient.
Merci Michel. Pour l'instant, sur le référendum d'initiative partagée, il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Il y en a une qui concerne la privatisation d'Aéroports de Paris. On en a parlé ici même. On a même fait un téléphone sonne là-dessus. Et pour l'instant, on est loin des 4 700 000 signatures qui seraient nécessaires pour aboutir à faire fonctionner cette action. Mais enfin, c'est un des moyens. Vous avez raison de le rappeler, Manuel Cervera-Marzal, il existe dans une société des tas de choses pour faire aboutir ses idées, normalement.
Oui. Non, moi, ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, ça fait écho aussi à ce que disait José Bové tout à l'heure, c'est que les désobéissances sont parfois aussi renvoyées, par le gouvernement ou par ceux qui leur sont hostiles, à la figure des grincheux qui ne savent que protester. Et en fait, quand on regarde, il y a le souci d'être dans la contestation, mais aussi dans la proposition. Là, on avait une proposition institutionnel, on peut en avoir d'autres, mais dans l'histoire de la désobéissance civile, il y a eu toujours ce souci d'articuler la critique de la société existante avec déjà le fait de poser les germes de la société de demain. Quand Gandhi et le mouvement de décolonisation de l'Inde disaient on va boycotter les tribunaux et les écoles britanniques, ils se contentaient pas de boycotter ces tribunaux. À côté, ils créaient d'autres tribunaux autonomes, gérés, des écoles aussi gérées par des Indiens eux-mêmes, qui posaient les bases de ce qu'ils appelaient déjà une vraie démocratie. Et aujourd'hui, on voit aussi des tentatives d'inventer des formes de vie écologique et démocratique chez ceux qui désobéissent. Donc je pense que voilà, il est important aussi d'avoir à l'esprit l'ensemble des formes d'action qu'ils développent conjointement.
Marc est dans le Val-de-Marne. Bonsoir Marc.
Bonsoir à tous et puis merci encore pour vos émissions. Moi, mon niveau, je trouve, il y a de très bons arguments que j'entends de part et d'autre, qui sont fort louables. En tout cas, au niveau des associations qui sont là et de celles qui tout dernièrement a bloqué à différents points et qui en plus s'expriment dans différents pays, puisque je crois qu'elle est
Extinction Rébellion. Oui, on va voilà, en dire un mot de cette organisation dans quelques instants.
En tout cas, ce que je trouve, c'est que ce qui est quand même curieux, je suis un peu perplexe, c'est parce que de faire des pieds et des mains pour que tout de suite ça cesse, la pollution, le CO2, enfin tous les désagréments environnementaux, je crois que ça va pas se passer comme ça. Malheureusement, la pollution, les dégradations sont pour la plupart des effets cumulatifs liés sur des décennies. Et bon, en admettant que notre gouvernement et même d'autres, parce que on est liés, interdépendants au niveau européen et même mondial, eh bien, il faut que ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
Vous vous demandez si c'est très efficace, hein, c'est ça, Marc.
Oui, et ce que je me dis, c'est qu'il faudrait que, c'est fort louable, ces mouvements, il y a une utopie qui est génératrice, un peu comme en mai 68 pour d'autres choses, mais malheureusement, je pense qu'il faudra qu'ils s'arment de patience avant d'obtenir des résultats. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça risque de faire comme pour la pollution sur des décennies désaccumulation, pourrait-on
merci.
Dire.
Merci voilà. Marc, merci Marc. Alors, Carole, ça va pas se faire du jour au lendemain,
bien sûr, ça, Marc. Hein. Bien sûr, ça va pas être facile, c'est sûr et certain, mais après, on ne peut pas être défaitiste et se dire, bon ben voilà, ça prendra du temps, ça a mis du temps, on a mis beaucoup de temps à polluer, et ça prendra du temps, et ça va s'arranger tout seul. Non, on le sait, ça ne s'arrangera pas tout seul, et si on ne fait rien très rapidement, on court à la catastrophe. En fait, il y a des lobbies, il y a des multinationales qui ont pris le pouvoir sur Terre, qui ont pris le pouvoir aussi, enfin nos dirigeants, les politiques, la finance, et on voit bien qu'on court à la catastrophe. En peu d'années, très très peu de temps, on a détruit une énorme partie des écosystèmes, une énorme partie du vivant, et donc je pense qu'on est dans un état d'urgence absolue. Il faut vraiment que tout le monde, que les citoyens prennent conscience de cette urgence, parce que je pense qu'on a besoin bien sûr des citoyens et des actions citoyennes. Il y a eu une émission, l'émission de la Terre, qui pointait certaines actions citoyennes.
Cette semaine sur France 2, voilà.
Personnellement, je pense que certaines n'étaient pas du tout ambitieuses, mais bon, c'est mieux que rien, on mobilise les gens. Mais on a besoin des citoyens, et bien sûr aussi de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui ont le pouvoir, et là il va falloir tout casser, il va falloir changer complètement le système. Sinon, je pense qu'on est fichu.
José Bové, vous demandiez à intervenir.
Oui, juste pour dire, effectivement, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a les moyens, est-ce que les choses vont aller aussi vite? Je voudrais juste rappeler un petit exemple très concret. En 2010, en France, on nous a annoncé qu'il y aurait des forages de gaz de schiste un peu partout sur le territoire. Il y a eu une mobilisation incroyable dans tous les villages concernés, dans tout le sud de la France, dans le bassin parisien, pour s'opposer. Les pressions ont été telles, le nombre d'élus mobilisés a été tel que le gouvernement de l'époque a eu peur que pour les sénatoriales, ça soit une catastrophe totale et qu'effectivement la majorité risque de changer au sénatorial. En 6 mois, on a eu une loi interdisant la fracturation hydraulique alors qu'on pensait que ça allait prendre des années. Il y a un autre combat qui lui est entamé depuis presque 40 ans, qui est l'exemple le pire qui soit de la pollution en mer Méditerranée, qui sont les boues rouges. Eh bien là, aujourd'hui, on est arrivé à un point où on gagne devant tous les tribunaux, mais systématiquement, le gouvernement redonne des autorisations de polluer en mer, d'envoyer les déchets en mer ou sur terre, encore pour des années. Et là, les citoyens ont dit, maintenant, ça suffit, ça doit s'arrêter en 2021, comme ça a été annoncé. Et si au 1er janvier 2021 ce n'est pas fait, eh bien les gens ont dit on va démonter le tuyau et on empêchera cette pollution de continuer. C'est-à-dire que là tous les moyens juridiques ont été utilisés, mais pour les pressions des lobbies, eh bien on arrive à un moment où ça ne va pas suffire et donc les citoyens ont décidé d'agir sur Marseille et la région marseillaise. Quand on commence un combat non violent, quand on rentre dans cette stratégie, on ne sait jamais le temps que ça va prendre. Mais ce qui est important, c'est de démarrer et de construire en permanence, un, la prise de conscience citoyenne, et deux, d'arriver à ce que la contrainte soit de plus en plus efficace pour que les gouvernements, quels qu'ils soient, disent « on n'a plus d'autre situation que d'accepter ces changements irréversibles ».
Merci José Bové. On va prendre l'appel de Corinne, parce qu'il est déjà 19h54. Je crois, Corinne, que vous souhaitiez parler de la responsabilité des élus locaux.
Oui, absolument. Chapeau déjà à tous ces gens qui se mobilisent, parce qu'il y a une notion d'urgence et on va dire aussi de désobéissance, parce qu'il n'y a pas le temps, parce qu'on est des parents, parce qu'on est... voilà. Et je voudrais surtout parler de ces élus locaux. Je suis absolument persuadée que c'est le local qui fera changer le national, etc., etc. Et de grâce, que les élus qui ne sont pas écolos ne se servent pas de l'écologie pour être élus. Il n'y a rien de pire, parce que ça fait un mal fou. Nous, on se bat sur des gravières, sur la Garonne. On se bat sur des usines avec du fuel, etc. Et on n'est pas entendu. Les gens se mobilisent, les citoyens lambda se mobilisent. Et c'est pas que pour eux, c'est pour un village, c'est pour... Et au bout du bout, il se passe quoi? On n'a pas d'élus derrière nous. Alors, à un moment donné, à minima, que les élus qui veulent être réélus, s'ils ne sont pas écolos, à minima, qu'ils ne se servent pas de l'écologie.
Merci, parce que là, merci voilà. Corinne. Voilà. Je suis obligée de vous couper parce qu'il est déjà 19h55. Manuel Cervera Marzal et ensuite, Carole, il y aura des questions pour vous qui nous arrivent par mail sur Extinction Rébellion. Manuel Cervera.
Non, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs maires, hein, qui ont pris des arrêtés anti-pesticides qui étaient visiblement illégaux. Enfin, en tout cas, ça va devant les tribunaux dernièrement. Et ça, ça nous dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que la désobéissance civile qui pendant longtemps est restée la prérogative soit d'un individu tout seul qui refuse d'appliquer une législation unique, soit de collectifs citoyens. Aujourd'hui, c'est aussi un mode d'action dont s'emparent des élus et même des institutions. Aux États-Unis, vous avez vu que tout un tas de villes refuse d'appliquer les législations climaticides ou bien homophobes de Donald Trump. Actuellement, en Catalogne, vous avez eu en octobre 2017 la plus grande action de désobéissance civile de l'histoire de l'Europe avec 2 millions de personnes qui sont allées voter un référendum qui était déclaré illégal. Donc voilà, je trouve intéressant de voir que ce mode d'action est en train de même pénétrer les institutions.
Carole d'Extinction Rébellion, il y a des questions qui nous arrivent, notamment une sur, c'est Marguerite qui demande, je vous donne les deux questions puis vous y répondrez après, peut-on parler d'un rapprochement entre Extinction Rébellion et les Gilets jaunes? Autre question, votre financement? On rappelle que votre organisation est née en Grande-Bretagne il y a un an,
au Royaume-Uni, oui.
En France au mois de mars dernier, et que vous en êtes, nous dit-on, à 10 000 ou 11 000 membres déjà?
Oui, 12 000, on parle de 12 000. Alors, la première question, c'était le rapprochement avec les Gilets jaunes.
Il y a eu une assemblée générale avec les Gilets jaunes
il y a
quelques jours.
Il y a eu même plusieurs assemblées générales sur la place du Châtelet avec les Gilets jaunes. Il y a eu aussi un rapprochement avec les Gilets jaunes lors de l'occupation de Italie 2. Et je pense que ça a été une grande réussite, au bout du compte. Même si ça n'a pas été facile parce que il y avait un consensus non violent qui a eu du mal à être respecté totalement. Mais au bout du compte, ça s'est très bien passé. C'est peut-être aussi ce qui a fait que l'occupation a duré suffisamment longtemps et peut-être aussi ce qui a fait qu'on en a beaucoup parlé. Et on a besoin, nous, effectivement, de parler de notre mouvement pour mobiliser l'ensemble des citoyens.
Un petit mot du financement, très rapidement, alors, parce que ça se termine.
Le financement, c'est un financement qui, en fait, en France, on est financé uniquement par des dons individuels.
Voilà, précision importante parce qu'aux États-Unis, c'est pas forcément le cas.
C'est pas forcément le cas partout, effectivement. Au Royaume-Uni, il y a une polémique. Mais nous avons refusé le financement de milliardaires et de voilà.
Manuel Cervera Marzal, une petite question sur les Gilets jaunes là, puisqu'on en parle. Est-ce que c'est de la désobéissance civile?
Alors, les Gilets jaunes, oui, ça a été en grande partie de la désobéissance civile, mais sans le revendiquer, sans utiliser le mot, c'est ça aussi qui est intéressant. Et ça a été en grande partie non violent aussi, parce que bloquer un péage d'autoroute, occuper un rond-point ou d'ailleurs aussi un centre commercial, bon, c'était illégal, donc désobéissant, et c'était non violent, donc civil.
Quand on casse un radar ou quand on démolit un portique écotaxe comme faisaient les bonnets rouges, c'est de la désobéissance civile, ça ?
On sort de la désobéissance civile parce que c'est plus non violent, mais après il y a des désobéissances non civiles qui peuvent aussi avoir une forme de légitimité, surtout quand en face il y a un État de plus en plus répressif.
Il est 19h58, on va vous donner à chacun 20 secondes et pas plus pour conclure, et on commence par José Bové. José Bové, 20 secondes et pas plus.
Mais écoutez, je crois que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est l'éveil, pas simplement des consciences, mais l'éveil des citoyens. Et les citoyens se réapproprient un droit. Ce droit, c'est de dire non à une situation injuste, c'est de dire non au fait que l'intérêt général est brimé. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut construire ces réseaux d'action non violente et de désobéissance pour qu'il y ait des convergences de plus en plus fortes.
Merci beaucoup José Bové. Carole, votre conclusion.
Alors, pour conclure, je vais peut-être répondre à Corinne tout à l'heure qui parlait de la difficulté des citoyens à mobiliser les élus locaux en lui disant n'hésitez pas les citoyens à rejoindre Extinction Rébellion parce qu'on a des groupes locaux un petit peu partout. Et juste pour finir ma conclusion, je voudrais citer Pierre-Victorien Vergniaud, qui est un révolutionnaire français et qui a dit à l'époque, donc au moment de la Révolution française, les tyrans sont grands tant que nous sommes à genoux.
Voilà pour cette belle conclusion. Manuel Cervera Marzal, vous avez plus que 10 secondes parce qu'elle vous a mangé une
partie de votre temps.
Et bien
une autre citation de Georges Bernanos, il faut beaucoup d'indisciplinés pour faire un peuple libre.
Voilà, que de belles citations ce soir. Merci à tous, juste après les infos de 20h. Passons genre, bonsoir Julia Foy.
Bonsoir tout le monde et on s'interrogera tout à l'heure dans quelques minutes sur la publicité et le sexisme.
Vaste sujet.
Oula, oui.
Oula, il y a des choses à dire. Merci mille fois, Julia Foyce. Il est 20h et quelques secondes sur France Inter.